Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors bonjour Mathias, Pierre et Rémi. J'ai décidé aujourd'hui de consacrer ma chronique à un sujet un peu marronnier en ces temps de campagne présidentielle, mais en même temps c'est un incontournable. Et je fais aussi ça pour toi Mathias, puisque je sais que tu ne dors plus depuis 3 mois en te demandant si tu dois finalement donner ou pas ton vote de cœur à Jean Lassalle, malgré ses 1% d'intention de vote.
Bref. Oui, Jean Lassalle a tous mes suffrages.
Bref, j'ai nommé les sondages. On entend tout et son contraire sur les sondages c'est bien, les sondages c'est mal, bref, on a à la fois un débat passionné qui charrie des positions idéologiques assez tranchées, mais qui interpelle aussi les sciences sociales, et plus particulièrement la sociologie politique, qui s'intéresse aux sondages depuis à peu près les années 30. Et il faut bien avouer que même en sociologie politique, les sondages restent un peu un thème polémique, comme nous allons le voir. Bon, la première question qui vient à l'esprit quand on s'intéresse aux sondages, c'est la question de leurs effets. Influence-t-il ou non les intentions de vote, et si oui, comment ? Alors, est-ce que vous connaissez les deux fameux effets supposés et contradictoires qui ont été théorisés par la science politique à propos des sondages ?
Le sondage autoréalisateur ?
Non, je parlais plus de l'effet underdog et l'effet bandwagon.
Évidemment.
En effet.
Oui, bien sûr.
Mais moi, je ne peux pas savoir.
Désolée. Donc, on a d'une part ce qu'on appelle l'effet underdog. Donc, les électeurs vont se mobiliser pour le perdant parce qu'il est en traîne dans les sondages et donc ils vont être plus déterminés à se déplacer au bureau de vote le jour J et donc infléchir les résultats du sondage et faire remonter le perdant. L'autre fameux effet, c'est l'effet bandwagon. Donc, on se mobilise pour le candidat qui caracole en tête dans les sondages, on saute sur l'opportunité et on suit la foule qui s'enthousiasme.
Donc, en gros, Hamon et Macron, quoi.
Un peu, ouais, voilà. Mais ça veut dire que les électeurs de Hamon vont aller voter pour Hamon, voilà, et les électeurs de Macron vont voter pour Macron. Donc, on peut aussi.
Qu'il est défini, d'ailleurs.
En fait. On peut aussi évoquer d'autres effets un peu plus indirects et pas vraiment théorisés par la sociologie politique. Il y a l'effet « humble the winner », donc « humilier le gagnant », qui désigne la démobilisation des troupes d'un candidat en tête des intentions de vote, ou l'effet au contraire de « snap the loser », « snobber le perdant », qui désigne la démobilisation des troupes du perdant dans les sondages. Bref, vous comprenez qu'on a plein d'effets très contradictoires qui prêtent aux sondages toutes les vertus et leurs contraires en termes d'influence. Et au final, même la science politique est incapable de dire lequel des deux l'emporte ou va l'emporter, parce que c'est absolument pas probant dans les faits. Pour autant, les sondages ne sont pas neutres et ils ont certainement un effet performatif. Donc la preuve, est-ce que vous ajustez votre vote en fonction des sondages et est-ce que vous y prêtez attention ?
Moi, non. Enfin, c'est rigolo de suivre les sondages.
Mais oui, voilà. C'est intéressant de regarder les courbes. Après, il y a toujours ce phénomène assez étrange où au moment où on se dit qu'on va voter pour un candidat, bizarrement, en fait, il se met à remonter comme si on n'était pas tout seul à prendre cette décision-là.
Voilà, il y a des effets d'interdépendance, en fait. Les sondages créent ça, en fait. On n'aurait pas si on n'avait pas les...
Tu présumes un peu vite qu'on vote, Maëlys.
Voilà, donc en fait, ça c'était la première question que je voulais aborder avec les sondages. Et la deuxième question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que les sondages sont fiables ? Donc le gage de scientificité, c'est un peu l'argument phare des sondages et ça provient en grande partie de la manière dont ils se sont institutionnalisés aux États-Unis et puis plus tardivement en France. Alors la petite question de culture générale, mais est-ce que vous savez comment vos grands-parents appelaient les sondages dans les années 50-60 ? Un autre terme, un synonyme.
Tu nous poses une colle, Maëlys.
Je vous pose une colle, mais on appelait ça les Gallup, en fait.
Les Gallup.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Donc c'était l'abréviation de Gallup Polls, donc du nom de George Gallup, qui a fondé un fameux institut de sondage à son nom, et qui a été le pionnier des sondages dans les années 30 et 40 aux États-Unis. Donc qui était George Gallup ? Donc alors, au début des années 30, en fait, après une thèse dans la science marketing publicitaire, George Gallup quitte l'université, parce qu'à l'époque, le marketing aux États-Unis est enseigné à l'université, pour fonder un institut de sondage, et il va largement miser en fait, sur son image de scientifique pour faire du commerce. Il va un peu révolutionner les sondages, en se détachant de ce qui était considéré en fait, à l'époque comme la bonne pratique statistique. Donc en fait, à l'époque, le consensus qui existait, c'était chez les statisticiens, en fait, c'était le tirage aléatoire. On tire un échantillon au hasard dans une population donnée. Donc lui, ce qu'il implémente, c'est la méthode des quotas. On construit l'échantillon en fonction des quotas représentatifs de la population d'ensemble, ce qui est à la fois plus économique aussi et ce qui permet de capter au maximum les caractéristiques de la population. Donc maintenant, c'est fortement utilisé et c'est le fameux échantillon représentatif que vous voyez sur toutes les enquêtes statistiques. Donc pour la petite histoire, la date clé du triomphe de Gallup, c'est 1936 et les élections présidentielles américaines. Donc il y a le journal Literary Digest qui annonce en fait la victoire républicaine de London contre Roosevelt avec ce qu'on appelle à l'époque un vote de paille. Donc un vote de paille, c'est une enquête en fait d'intention réalisée par les journaux à l'égard de leurs lecteurs. Donc c'est un sport qui est très très prisé par les journaux de l'époque et Literary Digest est considéré à l'époque comme étant très fiable là-dessus. Donc ce journal va s'appuyer sur 2 millions de questionnaires et il va donner en fait une victoire à plus de 50% du candidat républicain. Gallup, lui, avec seulement 100 000 individus, va annoncer le contraire. Donc il est un peu tourné en ridicule à ce moment-là, mais c'est lui qui va avoir la bonne prédiction. Et le Literary Digest va être publiquement décrédibilisé et c'est en fait à partir de ce moment-là que le sondage va être synonyme de scientificité. Donc ce fait va avoir valeur de démonstration publique et cela va marquer l'avènement des sondages dans la vie démocratique qui vont très souvent se tromper dans les élections américaines et françaises par la suite, mais bizarrement on oublie un peu plus facilement les erreurs des sondages. Donc par exemple en 48 les sondages n'avaient pas du tout prédit la victoire de Truman alors que c'est lui qui l'emporte. En 2002, il n'avait pas prédit l'éviction de Jospin. Et enfin, en 2016, Donald Trump n'était absolument pas attendu à la présidence. Bon, après, on trouvera toujours que tel sondage parmi 100 000 autres, 3 jours avant, les élections avaient prédit le résultat. Mais le fait est que les sondages peuvent se tromper significativement. Et même si c'est finalement peu probable que Jean Lassalle pèse de 1% à plus de 20% et soit qualifié au second tour. Ne pleure pas, Mathias.
Je saurais sécher mes larmes.
Et pour conclure, la troisième et dernière question en fait, liée au sondage que je souhaiterais aborder dans cette chronique, c'est pour ou contre les sondages. Donc alors je vais lister et synthétiser en fait un peu les pour et les contre soulevés par les travaux de sociologie politique et qui ne sont pas dénués en fait de forts présupposés idéologiques. Donc commençons par les pour. Donc premier argument pour, les sondages permettent une démocratie en direct et c'est la majorité qui s'exprime contre, je cite, les faux prophètes de l'opinion. Ça c'est un argument exposé par Gallup. Deuxième argument, les sondages donnent davantage d'informations aux électeurs qui leur permettent en amont en fait, d'évaluer les chances des candidats et de voter en connaissance de cause, ou bien de donner leur avis avant qu'ils ne deviennent candidats, ce qui leur permet aussi de peser dans le jeu politique et l'offre politique. Troisième argument, les sondages permettent de faire connaître la réaction des citoyens à une politique de manière directe. Et quatrième argument, en fait, les sondages amènent à une métamorphose de l'opinion publique en abaissant les coûts d'expression des individus qui répondent simplement à un coup de téléphone et en fait, dans cela, les sondages conduisent à une participation politique minimale des citoyens. Donc je ne sais pas si ça vous parle, ces arguments pour ou quoi. Et donc maintenant, je vais vous exposer les arguments contre les sondages. Premier argument, les sondages ne feraient intervenir que des gens peu mobilisés et ils délégitiment en fait les manifestations, grèves et syndicats, bref, les franges actives et brillantes en fait qui se mobilisent pour les décisions politiques, voire même en fait ils les réduisent au silence puisque quand on a l'impression d'être minoritaire, on va avoir tendance à se censurer. Et bref, au nom des majorités silencieuses, en fait, ils vont devenir un instrument de domination. Deuxième argument, les sondages délégitiment les corps intermédiaires et brisent le processus de délégation, ce qui livre en fait les dominés qui vont être désarmés et vulnérables en fait aux manipulations des dominants. Troisième argument, à cause d'eux, en fait, la campagne présidentielle s'apparente désormais à une compétition quasi sportive orchestrée par des spécialistes de communication politique. Pire encore, les sondages préélectoraux auraient un effet performatif et décideraient de l'offre politique. Donc on se souvient par exemple de l'investiture de Ségolène Royal en 2007, suite à des sondages donnés très favorables qui ont conduit tout le PS à se mobiliser derrière elle. Donc ce qui fait en fait que certains demandent désormais d'interdire les sondages longtemps avant l'élection. Bref, c'était une petite synthèse qui vous aura peut-être un peu éclairé à l'égard des sondages, même si la controverse est plus que jamais d'actualité. Alors je ne sais pas ce que vous pensez des sondages maintenant.
Bah, par définition, un sondage c'est quand même à double tranchant, dans le sens où ça a l'apparence d'une plus grande transparence, où on considère qu'on dit, enfin, on donne accès à la société à ce qu'elle est, finalement, enfin, on fait croire à la société ce qu'elle est. Et en même temps, ça aussi, c'est un effet prédicatif où on considère qu'on dit à la société ce qu'elle est et donc ce qu'elle doit être. une sorte de cercle vicieux qui s'entraîne.
Oui, un peu.
Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que les sondages, c'est un peu la merde ultime, mais on ne va pas tuer tous les sondeurs. Donc, enfin, je veux dire, on ne va pas empêcher les sondages d'exister. On est bien obligé de vivre avec.
Après, oui, on parle beaucoup des sondages électoraux. Après, il y a énormément de sondages d'opinion qui sont faits avec sans doute moins de marge d'erreur qu'avec des sondages très ciblés que sont les élections
présidentielles. Après, moi, ce que je trouve, on critique énormément le vote utile, etc., mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir une espèce de mesure, de savoir à peu près ce que s'apprêtent à voter les gens autour de nous, en fait, pour pouvoir aussi ajuster son vote en fonction. Et c'est un peu l'individu tactique et calculateur qui parle. Je me fais encore l'avocate des économistes, mais...
Mais du coup, mais, on pourrait juste savoir ce que notre entourage va voter. On n'a pas besoin de savoir ce que Duduche du fin fond de la Creuse va voter et ce que Machine en plein milieu de Paris va voter aussi. Donc les sondages, ça nous sépare de justement tout ce corps électoral alors qu'on a des gens qui nous entourent et c'est plutôt eux qui vont influencer notre vote plutôt que des gens totalement inconnus.
Mais de toute façon, un sondage n'a jamais la prétention de donner une estimation individuelle. Le fait que des moyennes... Et de toute façon, on ne peut prévoir que des moyennes et que des tendances.
Oui, c'est que des tendances. De toute façon, c'est toujours un échantillon. Enfin, on n'interroge pas tout le monde, quoi. Et ça, c'est le suffrage qui donne cette information.
Même, de toute façon, le suffrage n'interroge pas tout le monde, par définition.
Non plus.
Eh bien, on va passer au troisième moment de cette demi-heure de Tous Politiques. Et comme à chaque fois, il se trouve que j'ai quelque chose à vous dire.